Eh ben, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être de retour. On prend des habitudes à venir dans le sud. On était là déjà en juin. Alors, on est en vacances, Emmanuel et moi ici, mais on est avec vous ce matin et on profite des vacances ici pour aller à la plage, évidemment. 5 minutes du presbytère, c'est pratique. Ah, la plage. La plage. L'endroit où on voit les gens mettre en valeur leur corps. Le montrer. Il y a même un certain culte du corps, parfois, quand on se balade sur la plage. Les gens aiment le montrer. Alors, on a profité de la plage, mais on a aussi profité de la montagne, hier. On est parti en rando. Et le parcours n'était pas difficile, mais mon corps était fatigué. Mon genou, tout particulièrement, qui a subi une blessure et une opération. Et je devais faire attention. Je sentais trembler, j'étais conscient qu'il était fatigué. Ce corps humain, objet de tant d'attention, mais aussi de fragilité. Peut-être vous aussi, votre corps, vous y faites attention, parce qu'il y a certains endroits plus faibles, comme quand vous faites une randonnée et vous avez mal au genou. Ou alors vous le mettez en valeur sur la plage, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous faites, mais. Le corps, objet de tant d'attention et de fragilité. C'est fascinant comme image, le corps. Tellement fascinant que Paul, le chrétien Paul, l'a utilisé aussi comme image de l'Église, le peuple de Dieu, les croyants, nous qui sommes rassemblés ce matin, mais aussi tous les autres croyants dans le monde. Objet de tant d'attention et sujet de tant de fragilité aussi, l'Église. Dans un monde fragile aussi. Et je voulais vous lire ce matin et méditer ce matin avec vous sur un texte de la Bible qui parle de ce corps. Vous le connaissez certainement, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, eh ben, on va s'y plonger ce matin, et aussi pour tous les autres. C'est dans 1 Corinthiens 12, chapitre 12 et les versets 14 à 27. Je ne vais pas l'afficher, je vais le lire. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre. Sinon, suivez avec moi 1 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 27. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manque naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. On fait des soirées quiz là où on habite. Enfin, on participe à des soirées quiz là où on habite, dans le nord, là. Il fait froid ou il pleut. Et je vais commencer par une question de culture G pour vous. Vu qu'on parle de corps, vu qu'on parle de membres, savez-vous combien il y a de membres dans un corps? Combien? Quatre. Quatre membres. Qui dit mieux? Cinq. Cinq pour la dame au deuxième rang. Plus, non, personne d'autre. Six, quatre. Vous voyez pas. Il faut Faut surenchérir, là. Alors, ça dépend des définitions, évidemment. Qu'est-ce que c'est un membre, hein? Mais moi, j'ai lu qu'il y en avait 78. Mais selon la définition, 315. Mais je pense qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a le nombre qu'on est aujourd'hui. Chacun en a, et souvent on découvre l'existence quand il fonctionne un peu moins. Quand on va chez le médecin ou quand on fait une radio, et ah, il y a ça qui va pas. Ah, j'ignorais que ça existait dans mon corps. Et quand on est adolescent, peut-être qu'on complexe par rapport à certaines choses. Moi, j'ai un menton assez protubérant, on va dire. Eh bien, c'est pareil avec l'Église. Il y a plein d'organes avec des fonctions différentes. Hein. L'estomac n'a pas la même fonction que les yeux, comme on le voit dans le texte. C'est pareil dans l'Église. Ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, on voit qu'il y a de tout. Et c'est bien qu'il y ait de tout. Des gens de différentes origines, de Pologne, de différents métiers et d'âge avec une histoire, une éducation, des convictions politiques différentes, mais aussi des qualités, des capacités différentes. Chacun est unique et précieux aux yeux de Dieu, le Créateur. Et c'est beau qu'on soit différent, c'est beau qu'on soit différent. L'Église est belle parce que c'est voulu, imaginé par un artiste, Dieu. C'est beau cette diversité. Et il nous regarde en disant « Waouh, c'est beau ». Ce travail que j'ai fait. C'est pas à combattre, mais une chose pour laquelle on peut dire merci. Merci parce que l'autre est différent de moi. Et il reflète qui Dieu est, à sa manière. D'ailleurs, la diversité est synonyme de vie, hein. Quand on parle de protéger la biodiversité, c'est parce que le drame de l'agriculture intensive, c'est de faire qu'une seule espèce à un endroit. Et ça appauvrit les sols. Alors que si on a plusieurs espèces, ça enrichit les sols et ça favorise la vie. Diversité synonyme de vie, productrice de vie, et aussi productrice de vie dans le corps qu'est l'Église. Et dans le corps, tous les membres sont liés entre eux et forment un tout. C'est un ensemble. Le corps est une unité. On fait corps. D'ailleurs, l'Église, ça signifie, en grec, assemblée. On est assemblé. On est un ensemble. Les croyants sont liés de manière particulière. Le collectif dans un corps et dans l'Église est donc super important. On travaille en collectif. Le corps peut fonctionner seulement si tous les organes fonctionnent ensemble. Sinon, le corps ne pourrait pas marcher ou attraper des choses. Ce ne serait pas possible. C'est comme une voiture avec les nombreuses pièces qui font partie du corps, du mécanisme, moteur, transmission, frein, système électrique. Des choses importantes pour faire fonctionner le tout. C'est comme une fanfare, où chacun a son instrument, mais il faut suivre un certain rythme. Dès qu'on voit qu'il y en a un qui n'est pas dans le rythme, on le remarque tout de suite. Le rendu final n'est pas bon. Dans l'Église, il s'agit aussi de faire marcher le tout ensemble. On a besoin de chaque partie. L'Église comme corps. Et ça, c'était l'unité dans la diversité. Pour entrer dans l'Église, il n'y a pas de sélection selon les performances, pas de concours de beauté. Dans l'Église, chacun a sa place, même les plus insignifiants. C'est ce qu'on lisait dans le texte. Et c'est ça qui est vraiment révolutionnaire. C'est comme une équipe de rugby. Bon, il y a l'image précédente, mais... C'est comme une équipe de rugby. Il y a la Coupe du Monde qui va se dérouler en France en septembre. Et on penserait qu'au rugby, le plus important, c'est celui qui fait 2 mètres et 150 kilos. Bon, il est utile pour avancer, certes. Mais il y a aussi un joueur qui fait aux alentours de 1,70 m, pas plus, numéro 9, qui est indispensable, parce que c'est lui qui se faufile et qui éjecte le ballon le premier. Indispensable, le plus petit, le plus faible, dans une équipe de rugby, un sport de combat, de contact. Le plus insignifiant est le plus nécessaire, et c'est ce qu'on voit avec le corps. Et c'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Certaines parties qui paraissent insignifiantes sont pourtant essentielles au bon fonctionnement. Et dans le corps physique, le corps être humain, c'est pareil aussi. J'ai lu que l'organe le plus petit est la glande pinéale, 8 mm, localisée dans le cerveau, qui est impliquée dans la production de mélatonine, donc une hormone qui régule le cycle sommeil et éveil. Éveil-sommeil. Ça a l'air assez important pour un petit membre de 8 mm. Dans l'Église, il y a la même logique révolutionnaire. Ceux qui sont comme des petits sont accueillis comme des grands. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Et ce fonctionnement révolutionnaire nous aide à avoir les pieds sur terre et être humble. J'ai besoin de l'autre. Chacun a une relation différente avec Dieu. Chacun vit les choses d'une manière différente. Il peut m'apporter. Je prends ce qui est bon. Chacun a des dons différents de la part de Dieu. Chacun a des encouragements qu'il peut partager à l'autre de la part de Dieu. Mais cela demande à devenir petit, à reconnaître ses manques, ses besoins, les avouer et les montrer aux autres. Et dans notre Église, on essaye de former des face-à-face, des un à un, où on peut partager ses faiblesses l'un à l'autre, s'encourager, reconnaître qu'on est petit et se tourner vers Jésus. Attention à notre culture française qui peut-être nous empêche d'être humble. J'aime bien dire ça parce que je suis français, je me considère... Enfin, non, je ne suis pas français, mais je me considère français. Mais on a une blague en Belgique. Alors, je vous chambre ce matin, mais je m'inclus dans le lot. Hein. Savez-vous comment on élimine un Français? Est-ce que vous la connaissez? On tire une balle 10 cm au-dessus de sa tête, juste dans son complexe de supériorité. Ayons un regard juste de qui nous sommes, pas 10 cm au-dessus de qui nous sommes vraiment, pas 10 cm en dessous non plus. Ne pas se sous-estimer. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Il nous a donné des dons, des capacités. Avoir un regard juste. On est précieux pour Dieu, mais aussi pour les autres. Et faire partie de ce corps qu'est l'Église, c'est faire l'effort de prendre soin des membres qu'on estime le moins. C'est faire l'effort d'honorer les membres qu'on n'honore pas. Ça me fait penser à cette chanson de Stromae, qu'on va mettre d'ailleurs à la fin, Santé, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit « Je veux lever mon verre à ceux qui n'en ont pas ». Et dans toute cette chanson, il fait l'éloge des petits gens, qui font des boulots essentiels pour le fonctionnement de la société. Il porte une grande attention aux petites personnes du quotidien. Et ça me rappelle tout de suite Jésus. Hein ? Il portait son attention sur les plus petites personnes de notre société. Et on le voit dans la Bible, toutes les petites personnes qui ont été mises en avant. Des personnes qui reconnaissaient qu'elles étaient petites et que Dieu a utilisées d'une façon incroyable. L'Église, ce n'est pas la loi du plus fort, du capitalisme sauvage, de la sélection naturelle. Intéressons-nous à ceux que le monde n'intéresse pas. Qui sont les personnes autour de nous que nous négligeons mais qui font du bien autour d'elles? Et je vous invite chacun à être un ostéopathe, à rééquilibrer ce corps, à porter une attention particulière sur les membres auxquels on ne fait pas attention, pour que tout le corps aille mieux. Oui, parce que tout est lié dans un corps, les membres sont solidaires. Et il vous est déjà arrivé, par exemple, d'avoir mal aux dents, mais c'est tout votre corps qui souffre. Quand un membre souffre, le reste souffre. Quand un membre se réjouit, le reste se réjouit. Comme le disait Michel, la question est, pour chacun d'entre nous, est-ce que c'est plus facile pour moi de me réjouir avec ceux qui se réjouissent ou de souffrir avec ceux qui souffrent? Peut-être il y a quelque chose à travailler, à demander l'aide de Dieu dans ce domaine. Alors on est tous dépendants les uns des autres, on forme un corps uni, mais on est aussi dépendant d'une personne en particulier, la survie du corps dépend de la tête. Hein. Alors qui est la tête de ce corps, l'Église? C'est bien sûr ce Jésus, le capitaine, le chef d'orchestre, le berger. Le berger. Pourquoi? Parce que déjà, Jésus-Christ est digne d'être cette tête. Il est le Fils de Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous aime. Dieu, on ne le voit pas, mais il s'est fait voir avec le corps et la personne de Jésus. Dieu a pris un corps. Il est devenu corps pour qu'on puisse le voir, vivre avec lui. C'est en regardant Jésus qu'on découvre qui Dieu est. Et Jésus-Christ nous montre Dieu qui a voulu réparer le lien avec nous, mettre cette attelle pour le relier à lui, la tête, pour qu'on soit membre de son corps, alors qu'on voulait se séparer de lui, être une main comme ça, se balader. Lui, notre Créateur qui nous aime, Jésus, son Fils, la tête s'est inclinée vers nous. Il a regardé tout le reste du corps, nous, et il a réparé ce lien. Avec sa mort et sa résurrection, il nous a permis de faire corps, justement, d'être liés à Dieu pour toujours. Cette image du corps peut nous aider à voir ce lien avec Dieu. Et comme le corps est lié à la tête, on est lié à Jésus. On partage tous la même confiance en ce Jésus. On a fait la même expérience de changer de vie avec Jésus, de tirer notre force de Jésus, notre sagesse, pour suivre la vérité. Il est notre point commun. Par sa mort sur la croix, le Christ a réuni tous ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas en un seul corps, et il les a réconciliés avec Dieu par la croix. Il a détruit la haine. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. Quel beau texte, tout ce que Christ a fait. Il a réuni en un seul corps les êtres humains. Cette dépendance aux autres et à Jésus nous fait grandir en amour et en ouverture. Le fait d'être dans un corps nous fait rendre compte que nous ne sommes pas la tête. Hein ? Alors pourquoi se prendre la tête en se prenant pour la tête ? Dans ce corps uni, ce qui devrait nous pousser, c'est garder l'unité. Ce qui devrait être notre nourriture, c'est l'amour. Et comme ça a été prié, Seigneur, donne-nous plus d'amour pour ce corps. Un amour vrai, sincère, actif dans les actes, pas un amour mou ou théorique, où on parle juste d'amour. Un amour qui s'attache au bien et qui déteste le mal. Un amour qui sort de son confort pour accueillir et pardonner, comme le disait Michel, pour accueillir chez soi. Alors peut-être c'est l'occasion d'inviter d'autres personnes chez soi. Parce que c'est ça, c'est à l'amour qu'on reconnaîtra qu'on appartient au Christ. C'est à l'amour qu'on reconnaîtra qu'on appartient à ce corps. Et c'est ainsi que ce corps pourra grandir en maturité. La maturité, ça se mesure à l'amour qu'on a. Pas à l'intelligence, pas je sais pas quoi. C'est à l'amour que ça se mesure. En suivant et en imitant la tête qui a montré l'amour vrai, authentique, actif envers nous. En proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. Encore un beau texte sur le corps et l'amour. Grandir en maturité dans l'amour pour faire fonctionner ce corps. Mais grandir aussi pour s'ouvrir. Le corps n'est pas un corps seul flottant dans l'espace, coupé de tout. Il marche sur une terre, avec d'autres corps autour. Il parle. Le corps qu'est l'Église n'est pas une bulle à l'écart du monde extérieur, parce que celui-ci serait trop mauvais, non ? L'Église est le corps de Jésus en action dans le monde pour faire du bien aux autres. On est ce corps et on marche dans ce monde pour faire du bien, pour parler, pour encourager, pour relever, pour pardonner. Depuis que Jésus est parti, on représente physiquement Jésus sur terre. On est le corps de Jésus. L'Église, c'est l'organisme vivant, constitué par des personnes vivantes, l'organisme vivant de Jésus sur terre. Et on continue le job de Jésus, vu qu'on est ce corps. Et il y a de quoi faire pour briller dans ce monde obscur. Et on montre l'amour de Jésus comme il le faisait lui-même pendant sa venue sur terre, quand il avait un corps. L'Église comme corps vit dans le monde, et elle marche avec l'humanité et porte une bonne nouvelle pour cette humanité. On porte une bonne nouvelle pour l'humanité. Une bonne nouvelle qui dit que la paix est possible au milieu des violences. Une bonne nouvelle qui dit que chacun a sa place dans ce corps de Jésus-Christ, que chacun est précieux. Une bonne nouvelle qui dit que chacun peut entrer et être greffé à ce corps que Dieu est en train de construire. Alors les amis, mon encouragement pour vous ce matin, en tant que corps de Jésus à Cannes et dans le monde, ben marchons ensemble, en tant que corps uni, divers, solidaire, aimant et ouvert. Je vous invite maintenant, pour méditer ça, mais à ce qu'on regarde, je ne sais pas si ça va marcher, mais je pense, le clip de Stromae, justement, la chanson. Alors on peut l'écouter, on peut regarder, et en pensant à cette phrase qui dit, ben, comme je le disais, « Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. » L'Église, c'est pareil, c'est un corps où chacun a sa place et où on veut honorer ceux qui ne le sont pas. Et quand on écoute cette chanson, on peut se dire, premièrement, « Dieu lève son verre pour moi. » Alors qu'il est Dieu, créateur de l'univers, il nous honore en nous aimant, en nous faisant une place dans son peuple. Dieu vous lève son verre. Il vous honore, vous, quand vous vous sentez peut-être petit dans ce corps. Deuxièmement, à qui puis-je, moi, lever mon verre dans ce corps? Qui puis-je honorer comme petit membre de ce corps? Je vous invite à écouter.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas, Rosa, quand on fout le bordel, tu les vois. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu prends des vestes au vestiaire. Arrête, toi la fête, tu la passes au bordel. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas.
Je vais prier. Seigneur, merci pour ce corps que nous formons, chacun différent, chacun précieux à tes yeux. Merci parce que tu nous aimes. Tu aimes ce corps. Tu nous aimes. Merci parce que tu nous honores. Merci parce que Jésus nous montre cet amour que tu as pour nous, envers les plus faibles, les plus petits. Rends-nous humbles devant toi, dépendants de toi. Et Seigneur, aide-nous en retour à vivre cette logique révolutionnaire de considérer les plus petits, d'honorer ceux qu'on n'honore pas. Seigneur, donne-nous cet amour, remplis-nous encore plus de cet amour chaque jour. Amen.